Bonjour Yael Braun-Pivet.
Bonjour.
Christophe Castaner est sous le feu des critiques de l'opposition depuis ses déclarations dans les heures qui ont suivi l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Le ministre de l'Intérieur va être auditionné demain par la délégation parlementaire au renseignement dont vous êtes membre. D'abord d'un mot, rapidement, cette délégation n'est pas très connue. Comment fonctionne-t-elle et à quoi sert-elle ?
Alors, elle existe depuis un peu plus de 10 ans pour contrôler l'action du gouvernement en matière de renseignement. Parce qu'il s'agit d'une matière très sensible, nous sommes soumis au secret défense et c'est une délégation bicamérale, c'est-à-dire qu'elle réunit des sénateurs et des députés, membres principalement des commissions des lois et de la défense.
Ouais, au total, il y a 8 membres.
Tout à fait.
Dont vous, qui donc allez auditionner Christophe Castaner demain. Qu'allez-vous lui demander? Qu'allez-vous chercher à savoir?
Ce qui nous importe vraiment, c'est de comprendre ce qui s'est passé et comment se fait-il que des personnes au sein même de nos services puissent présenter des signes de radicalisation qui les ont menés à commettre cette action absolument abominable.
Que certains membres puissent présenter des signes de radicalisation, c'est une chose, mais qu'ils ne soient pas détectés ou qu'ils ne fassent pas l'objet de rapports, c'en est une autre. C'est ça qui est inquiétant aujourd'hui dans cette affaire.
Ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, lorsque l'on a des signes de radicalisation, il faut impérativement les détecter pour justement permettre d'assurer la sécurité de nos services et des Français. Donc l'idée, là, c'est de savoir... Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu des signes? Est-ce qu'ils ont été pris en compte? Pourquoi ça n'a pas été pris en compte? Et comment surtout améliorer nos procédures pour que cela ne puisse pas se reproduire?
Est-ce que vous allez chercher à savoir si l'auteur de cette tuerie à la préfecture de police de Paris a pu accéder, compte tenu de ses fonctions, puisqu'il travaille dans un service ultra sensible, accéder et éventuellement divulguer des fichiers ou des dossiers sensibles?
Bien sûr, c'est une question qui se pose de façon très aiguë.
L'audition de Christophe Castaner aura lieu à huis clos.
Tout
parce
à fait.
Que cette commission relève du secret défense, enfin ces auditions. Les conclusions de cette audition ne seront pas non plus rendues publiques.
Non, les conclusions ne seront pas rendues publiques. Nous pouvons après engager un travail au long cours sur cette question-là, détection, radicalisation au sein de nos services et comment on renouvelle les habilitations, etc. Et ce travail, lui, peut être public puisque tous les ans, nous rendons un rapport annuel.
Il faut préciser que cette commission est donc elle est composée de 8 membres. Elle est dominée par l'opposition puisque 4 d'entre eux sont les Républicains. Vous n'avez pas d'inquiétude sur le respect de la confidentialité de l'audition?
Aucune. Cette délégation, moi j'y appartiens depuis 2 ans. Nous nous réunissons tous les mois, voire plus fréquemment. Nous travaillons très bien ensemble. Vous savez, ce sont des sujets qui sont vitaux pour la sécurité des Français et qui dépassent largement oui. les clivages politiques. Et je ne doute pas qu'au sein de la délégation, cet état d'esprit demeure.
Sur un plan plus politique, est-ce que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui dispose encore de l'autorité et de la crédibilité nécessaires à l'exercice de sa fonction?
Oui, je le crois, bien sûr. Moi, ce qui m'importe vraiment et ce qui lui importe à lui, et j'en suis convaincue, c'est vraiment de permettre d'assurer la sécurité de nos concitoyens et donc de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à la préfecture de police.
A-t-il parlé trop vite après l'attaque à la préfecture de police?
Il a parlé avec les informations dont il disposait à ce moment-là.
C'est peut-être le problème, c'est peut-être qu'il ne disposait pas de suffisamment d'informations pour parler, non?
Écoutez, je pense que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment d'avancer très sérieusement sur ces questions-là et pas cette polémique qui me semble complètement stérile.
C'est aujourd'hui que le débat sur l'immigration va avoir lieu à l'Assemblée nationale. Le président de la République avait prononcé un discours le 16 septembre dernier dans lequel il disait que l'immigration est un sujet en soi, qu'il faut prendre avec calme et maturité. Il invite la majorité à traiter ce sujet sans tabou. Ce qui inquiète l'opposition, notamment l'opposition de gauche, parce qu'elle dit quand on dit sans tabou, c'est un peu le discours de l'extrême droite. À quoi vous attendez-vous, vous, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale?
Nous allons essayer d'avoir un débat où on pose toutes les questions. Parce que l'immigration en France et les questions relatives à la politique migratoire sont souvent traitées au coup par coup sans aucune vision. Or, il s'agit d'une politique publique et cette politique publique mérite un vrai débat parlementaire au sein de nos chambres. Et puis après, un travail au long cours sur toutes les questions qui se posent en matière d'immigration. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment plus le début de quelque chose, la continuité d'une politique que nous menons qu'un simple débat qui ne débouchera sur rien.
Vous vous êtes reconnu dans ce discours auquel je faisais allusion du 16 septembre dernier d'Emmanuel Macron, dans lequel donc il disait un sujet qu'il faut regarder en soi, dans lequel il disait également la question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec l'immigration, ils ne la croisent pas, les classes populaires vivent avec. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ces propos?
Ben peut-être, parce que je suis une bourgeoise et je suis issue de l'immigration, donc ça doit me parler.
Oui, mais là, en l'occurrence, c'est contradictoire dans son propos à lui.
Ben écoutez, je suis l'exemple même qu'il n'y a pas de contradiction entre la bourgeoisie et l'immigration.
Et Julien de Normandie, à peu près au même moment ou quelques jours avant, le ministre chargé de la ville et du logement disait « on ne peut pas avoir en France du tourisme médical », donc allusion à l'AME, à l'aide médicale d'État. C'est un discours nouveau qui d'ailleurs heurte une partie de la majorité, hein, ce qu'on appelle l'aile gauche de la République en marche. Sur l'aide médicale d'État, vous pensez qu'en effet, il y a des choses à creuser, voir si éventuellement il y a des abus, par exemple ?
Écoutez, l'aide médicale d'État, elle est là pour assurer une couverture médicale aux personnes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire. Maintenant, elle n'est pas là pour assurer des soins à des personnes qui viendraient en France uniquement pour cela, pour repartir ensuite. Donc, bien évidemment, il faut regarder cela, mais sans jamais revenir sur la couverture médicale des personnes qui sont en situation de fragilité sur notre territoire.
Même si dans l'attaque de la préfecture, l'immigration ne peut pas être mise en cause, est-ce que vous pensez tout de même que cette affaire de la préfecture peut peser sur les débats aujourd'hui sur l'immigration ?
Non, je ne crois pas. Franchement, ce serait vraiment faire des raccourcis très très malvenus.
Des dizaines de milliers de personnes, 75 000 selon un organisme de comptage indépendant, ont manifesté hier contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes prévues dans le projet de loi de bioéthique. C'est un peu moins que lors des premières manifestations contre le mariage pour tous, mais c'est un chiffre qui n'est pas négligeable. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude qu'expriment ces personnes ?
Oui, je la comprends et cette inquiétude existe aussi au sein dans nos rangs et au sein du Parlement, donc on l'entend. Maintenant, là où on ne peut que se satisfaire, c'est qu'on assiste à un débat apaisé. Les personnes peuvent exprimer leurs opinions, quelles qu'elles soient, et c'est ça l'essentiel. On ne pense pas tous la même chose sur les questions bioéthiques. Parfois même, au sein de notre groupe, ou même vraiment, chacun se pose des questions. C'est des questions qui sont perturbantes et donc il est tout à fait normal qu'une partie de la population puisse exprimer des avis divergents. Moi, franchement, cette manifestation, elle m'a semblé être bienvenue parce que elle a permis à cette frange de la population de s'exprimer et c'est essentiel dans ce type de débat.
L'une des inquiétudes qu'expriment ces personnes, c'est que la PMA, la procréation médicalement assistée, ne soit qu'une étape vers la GPA. Vous pouvez leur garantir que ça ne se produira pas ?
Vous savez, les lois bioéthiques, elles servent à rendre possible certaines avancées technologiques, mais aussi à poser de vrais interdits. Et clairement, nous souhaitons maintenir un certain nombre de principes qui sont l'indisponibilité du corps humain, l'anonymat, la gratuité du don, etc., qui rendent impossible la légalisation de la GPA.
Vous entendez ce que disent les opposants. Le mariage pour tous ne devait pas donner lieu à l'adoption, il a donné lieu à l'adoption. La PMA donnera lieu à la GPA.
C'est ce qu'ils disent et ce n'est pas ce que je crois.
Merci Yael Moine-Pivet.
Merci journée. À vous.